En fait, dans une canette, tu as 4 grammes de sucre. Je rappelle, pour les gens qui ne savent pas, dans une canette de Coca-Cola, tu en as 36.
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Ninkasi. Bonne année à tous! Nous commençons 2022 avec une nouvelle série de podcasts sur les styles de bière. Et quoi de mieux que le mois de janvier et son fameux Dry January pour parler de bière sans alcool? Dans cet épisode, j'échange avec Paolo Bouquin, commercial Europe pour la brasserie Athletic Brewing basée aux États-Unis et Certified Cicerone, sur les bienfaits de la bière sans alcool sur la santé, les méthodes de fabrication complexes et les tendances du marché. Ce podcast a été réalisé à distance, nous nous excusons d'avance pour l'écho que vous pourrez entendre par moment. Bonjour Paolo.
Bonjour, bonjour Lisanne.
Alors déjà bonne année, hein, on commence en janvier une nouvelle série de podcasts avec toi en première invitée.
Merci de m'avoir comme invité et bonne année à toi et bonne année à tout le monde.
Merci, merci. Alors, avant d'aborder notre sujet principal qui est les bières sans alcool, Paolo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire comment tu es tombé dans la bière?
Oui, alors moi, je m'appelle Paolo Bouquin, j'ai 33 ans. Je suis rentré dans la bière par passion. J'ai commencé dans l'hôtellerie et dans le milieu du tourisme il y a une quinzaine d'années, un peu moins de 15 ans. Pendant mes études aussi, j'ai toujours travaillé dans l'hospitalité et dans la gastronomie. J'ai grandi en Italie, à Milan, et j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de restaurants en tant que serveur, dans des restaurants qui travaillent avec des produits locaux et à circuit court, kilomètre zéro. Donc, j'étais déjà un peu sensibilisé à ce côté produits, origine, autour du bio, autour du circuit court. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Et ensuite, c'est là où j'ai découvert un peu la bière, parce qu'un très bon pote que j'avais connu en Suède, qui est australien, était devenu maître brasseur dans une brasserie londonienne. Et c'est en lui rendant visite que j'ai découvert un peu ce milieu de la bière artisanale. Pour moi, la bière était équivalente à la lager, en fait, et je connaissais que la bière, pour moi, ça pouvait avoir un seul goût, et c'était celui de la lager. C'était pas forcément quelque chose qui m'attirait vraiment, hein. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et c'est là, en fait, en goûtant, et c'est un peu le côté clivant de l'IPA qui fait un peu réveiller tes papilles. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que la bière pouvait avoir multiples goûts et faveurs. Donc, c'est là, en fait, où je me suis dit, je suis peut-être passé à côté de plein de choses. Donc, il faut que je creuse le sujet. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, c'est là où j'ai commencé à acheter plein de bouquins sur la bière, à commencer à brasser chez moi, à faire partie un peu de la communauté de la bière à Paris, faire pas mal de... À chaque fois que je voyageais, j'allais visiter des brasseries, je contactais les brasseurs, j'allais m'intéresser. Ensuite, j'ai passé le premier niveau du Cicerone, le Certified Beer Server. J'ai commencé à étudier pour le deuxième. Et entre-temps, j'ai été contacté par Heineken pour être en charge d'une marque qui avait été rachetée il y a plusieurs années, en 2008, qui était la marque Mansubit en Belgique, faire le lancement de cette marque en France, et ensuite passer sur un profil multimarque en tant que développeur du marché des bières artisanales pour le portefeuille d'Anneken. Donc c'est là où j'ai pu travailler avec pas mal de brasseries, avec Oedipus, avec Beavertown, avec Brixton, avec Lagunitas, mais surtout les deux dernières années avec Gallia et avec Rémi. Entre-temps, en 2018, j'ai passé mon Certified Cicerone.
Et tu fais partie des rares Français à l'avoir.
ouais, on est pas nombreux. Et du coup, entre-temps, je me préparais pour l'Advent, donc c'est le troisième.
Ah oui.
C'est un peu cette envie de je le fais surtout pour moi, pour me challenger moi personnellement, pour pousser un peu les limites et pour apprendre d'autant plus, parce que une fois qu'on travaille dans le secteur, il y a un peu un apaisement et il y a moins de challenges sur le produit et sur l'histoire. On est plus dans le côté ouais, dans le côté commercial et marketing de la gestion du marque. Et pour garder ce lien, je me challenge avec les examens. C'est surtout pour montrer un peu, pour pousser un peu cette envie de connaissance dans le milieu de la bière. Et ensuite, surtout pendant le Covid, c'est là en fait où il y a un an et demi, j'ai découvert Athletic. En se benchmarkant un peu sur ce qui se fait dans le monde, et vu que Athletic c'est un des seuls pure players du sans alcool, parce que brasse que ça, c'est un peu nouveau pour moi, mais je suis ravi, je m'éclate, beaucoup de challenges, mais c'est très très cool et c'est ce que je recherchais en fait.
C'est une belle histoire. C'est vrai que les grands groupes, ça peut être effectivement une bonne école, hein, très formateur pour ensuite pouvoir développer ses compétences dans un plus petit groupe. Alors, on parlera d'Athletic un petit peu après, pour expliquer un petit peu l'entreprise. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une bière sans alcool ?
Alors, une bière sans alcool, c'est ça dépend à qui tu le demandes, qui est le brasseur, mais principalement une bière sans alcool, c'est une bière qui est brassée comme une bière classique, avec plusieurs techniques diverses et variées. On enlève en fait l'alcool qui est produit par l'activité de la levure. Donc il y a plusieurs façons d'enlever l'alcool ou de en produire moins, parce que soit tu l'enlèves, soit tu gères ta levure pour essayer de maîtriser la quantité d'alcool qui est produite. Et il y a beaucoup de différences entre les deux. Souvent, quasi tout le temps, dans les gros groupes industriels, quand tu fais du sans alcool, tu enlèves en fait l'alcool avec une distillation ou avec une membrane. Le problème de la, en fait, ça te permet d'atteindre quasi 0,0. En fait, ce que je veux préciser, c'est qu'il y a vraiment pas une bière qui est vraiment 0,0. T'as 0,03, mais t'as toujours des résidus d'alcool. Et je le dis, et c'est bien de le spécifier, parce que souvent on dit, 0,0, il y a vraiment zéro. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Et Heineken a été attaqué en justice il y a le mois dernier aux États-Unis parce que, en fait, il y a 0,03, mais en fait, c'est limite indétectable, même dans les labos. Mais par contre, il y en a.
Et, donc c'est pour ça qu'on voit souvent plutôt en dessous de 0,5.
C'est ça.
Degré d'alcool. Ouais.
Après, il y a aussi un côté législation, c'est que en France, la bière est dite sans alcool à moins si elle a moins de 1,2, ce qui est hyper élevé hein, par rapport au reste du monde, parce que dans le reste de l'Europe, c'est moins de 0,5. C'est moins de 0,5. Et il y a une loi qui va passer pour une homogénéisation réglementaire autour de l'alcool en Europe, et du coup la France va se benchmarker sur les autres pays et ça va être 0,5 sur toute l'Union européenne. Du coup, maintenant, tu peux avoir une bière sans alcool que s'il y aura moins de 0,5. Mais même dans les 0,0, il y a toujours un peu d'alcool. Donc on peut soit faire porter à ébullition et du coup l'alcool va s'évaporer, ou soit avec cette membrane filtrante, on va en filtrer en fait les particules d'alcool. Le problème principal de ça en fait, c'est que quand tu fais c'est un processus qui est très violent pour la bière en fait. C'est un produit très fragile et quand tu le portes ébullition, tu perds aussi beaucoup de goût. Mmh. Et en fait, tu vas la faire vieillir hein, très 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 rapidement et en fait, tu vas enlever beaucoup beaucoup de nutriments et de matière et tu vas enlever certes l'alcool mais aussi plein d'autres choses qui vont avec et du coup en fait, quand tu veux faire une bière un peu comme artisanal avec du goût et avec du corps, tu te rends compte en fait que ça va être quasi impossible d'avoir une bière avec du goût et du corps et avoir aussi 0,0 parce que t'enlèves aussi plein de choses que tu cherches hein, et aussi plein de d'arômes qui peuvent être donnés par le houblon qui coûtent hyper cher et qui nécessitent quand même beaucoup d'attention dans la façon de produire la bière mais aussi dans le stockage comme tu sais très bien. Mmh. Et du coup, il faut faire très attention avec ça si tu veux garder vraiment tout le côté goût.
C'est souvent le reproche qu'on fait aux bières sans alcool, c'est justement ce côté très aqueux, avec des flaveurs qui sont relativement faibles. C'est sûr que si on met qu'on essaie de mettre un goût malté, le malt, c'est lui qui apporte le sucre, donc qui va apporter de l'alcool derrière, donc faut faire attention à ça. Si on veut mettre des fruits, pareil, les fruits, ça amène du sucre aussi, donc il faut pas trop en mettre non plus, donc ça fait un léger goût en fruits, donc le houblon, c'est un peu l'ingrédient qui nous permet aussi de venir compenser cette manque de, ce manque de goût en mettant pas mal de houblon, mais comme tu dis, qui est pas donné non plus.
Ah, bien sûr. Et du coup, tu te rends vite compte que si tu veux faire une bonne bière sans alcool, ben en fait, 0,0, c'est quand même assez contraignant. Et ensuite, tu dois prendre aussi en compte que la bière sans alcool, c'est aussi une bière qui est hyper sensible aux infections et à l'oxydation. Donc, c'est aussi beaucoup plus fragile parce que l'alcool, c'est un conservateur. Et là, tu as pas, en fait, ce côté conservateur. Donc, tu dois faire d'autant plus attention. Et souvent, donc, là, pour revenir à l'alcool, l'avantage de faire moins de 0,5, c'est que avec des techniques modernes, avec un très bon labo et avec un côté hyper pointu dans la fabrication, tu peux avoir une bière avec du corps, avec du goût, en soyant sans alcool, à moins de 0,5. Et c'est exactement le cas d'Athletic. Et c'était le challenge, c'était de faire une fermentation. Donc tu prends une souche de levure qui est la tienne et que tu vas paramétrer hein, tout au long de la fermentation. Le but, c'est que la levure, dès qu'elle commence, la levure, elle va produire plein de phénol, ester, et ça va donner plein de goût. Et à un moment donné, elle va commencer à produire aussi de l'alcool. Et le but, c'est de pouvoir maîtriser ta levure pour essayer de la calmer, d'atténuer son activité dès qu'elle commence à produire de l'alcool et du coup de la maîtriser. On parle souvent de levure comme un peu un animal sauvage que t'essaies de dominer. Hein. Bah, par exemple, dans le lambic avec les Brettanomyces, un peu c'est un pitbull et levure une Saccharomyces cerevisiae, c'est plutôt un chihuahua dans la façon de travailler. Là, du coup, on est sur une souche de levure que t'essayes de dominer, hein, de calmer, d'atténuer, de maîtriser comme tu peux, et avec du pH, avec des indicateurs, avec beaucoup, beaucoup d'attention prêtée par le labo, mais surtout beaucoup, beaucoup d'attention dans la façon de stériliser la brasserie et tout l'équipement de brassage, parce que le moindre infection, la moindre chose va déstabiliser l'activité de la levure. Donc, les bières, elles vont passer de 2 à 3 semaines en fermenteur. Donc, elles sont brassées comme des bières normales. Donc, on met les mêmes ingrédients et avec peut-être un peu moins de matières premières comme les céréales pour maîtriser un peu le niveau de sucre. Mais en tout cas, bière classique avec un équipement de brasserie classique peut-être plus propre, parce que ça dépend des brasseries, mais en tout cas, ça doit être quasi stérile. Hein. C'est comme si on produisait de la nourriture. Fermentation, 2 ou 3 semaines, en fonction des styles qu'on brasse, et ensuite, en canettage, parce qu'on n'a pas d'embouteilleuse, on n'a que des canettes, et en canettage, et ensuite, palettiser et envoyer. Et nous, on brasse, la particularité, c'est que chez Athletic, on brasse 80 bières différentes par an.
Ah oui, quand même.
Que en sans alcool. Et on brasse plus ou moins tous les styles. Donc, t'as vraiment, tous les styles sont représentés. Des styles plus mass market, comme une Golden Ale ou comme une lager avec du riz, un peu comme des bières plus mass market aux États-Unis, jusqu'à une brute IPA ou une double IPA sans alcool, ce qui n'a aucun sens en soi.
Oui, c'est vrai.
Sans alcool. Mais en fait, tu vas mettre autant de houblon que dans une double, une triple IPA sans l'alcool, mais avec beaucoup de corps donnés par du blé malté, par de l'avoine. Et en fait, c'est vraiment de pousser les limites et d'aller jusqu'où tu peux aller, mais en tout cas tous les styles ils sont représentés, des gauzeux, des Berliner Weisse, des Cascadian IPA, c'est des Black IPA et
la fameuse Black.
Ouais, il y a vraiment un peu de tout. Après, sur un table, tout est mis. Donc, pour les curieux, ils peuvent aller jeter un coup d'œil.
C'est vrai qu'on les trouve pas toutes encore en France, mais ça vient.
Ça vient doucement. Pour l'instant, on a que 2 refs. Mais le but, c'est d'introduire. C'est des bières très fragiles, comme j'ai dit, avec une date de péremption très courte. Donc, c'est difficile de les faire venir. Il faut trouver le moyen même avec un stockage réfrigéré dès la brasserie jusqu'à l'entrepôt. C'est quand même difficile de la conserver.
Et oui, déjà, la bière, c'est fragile avec 4-5 degrés, voire 10 degrés d'alcool. Ouais. Là, à 0,5, clairement, ça devient encore plus fragile aux variations de température. Alors, c'est en canette, donc il n'y a pas le problème de lumière ou autre, mais effectivement, c'est un produit qui va, qui va pas vivre très longtemps dans le temps, vu qu'il n'y a pas l'alcool qui va le conserver non plus.
Exactement. Et on veut vraiment garantir une qualité de produit toujours optimale. Donc, il faut aussi tenir ça en compte et tenir en compte que, de toute façon, on ne pourra jamais s'assurer que le produit soit toujours en température dirigée jusqu'au
consommateur. Ça dépend du détaillant ou du bar, effectivement. Ouais. Alors, tu as mentionné tout plein de styles de bière. Ouais. Effectivement, il y en a certains qui sont déjà à l'origine, traditionnellement, des styles de bière qui étaient... Alors, ce n'est pas du sans alcool, on va dire, à l'époque, mais c'était du faible en alcool. Alors, tu as parlé de la Berliner Weiss ou de la Gauss, par exemple, qui sont des styles allemands qui n'étaient pas très, très forts en alcool et qui, d'ailleurs, sont revenus beaucoup au goût du jour. Maintenant, on en retrouve beaucoup, justement, pour leur alcool assez faible, des fois autour de 2-3 degrés. Il y a aussi les bières de table qui étaient consommées massivement avant par la population. C'est ce qu'ils buvaient tout le temps. Et puis, les Anglais qui ont fait les bières de session pour pouvoir en boire beaucoup et longtemps. Donc c'est vrai que c'est pas maintenant il y a une vraie tendance sur le low et le no alcool, mais en fait c'est pas si récent que ça puisqu'il y a déjà depuis longtemps des brasseurs qui faisaient des bières faibles en alcool et qui d'ailleurs sont maintenant vachement prisés de tout le monde.
Ouais, c'est en fait dans chaque pays où ils buvaient beaucoup de bière, en fait la bière a une importance culturelle très importante. On trouve des styles faiblement alcoolisés parce que qui dit beaucoup de bière consommée dit aussi maîtrise un peu de l'alcool. Peut-être c'était moins un souci avant, mais aujourd'hui ça devient une priorité. Mais surtout si tu bois 3 ou 4 litres de bière par jour, à un moment donné, il faut qu'il y ait moins d'alcool dedans parce que sinon, c'est pas quelque chose que tu peux continuer à faire pendant des décennies. Et du coup, en fait, quand tu regardes un peu les styles historiques qui sont faiblement alcoolisés, les gueuses en Belgique ou des bières ou des saisons sont toutes assez, elles sont toujours aujourd'hui assez faibles en alcool, à moins de 5 degrés dans les styles historiques. Les Gauzeux et Berliner Weisse aussi en Allemagne. Les lagers qui étaient consommés en Allemagne aussi étaient aux alentours de 4 degrés 5. En République tchèque, pareil. En Angleterre et en Irlande, l'Irlande avec les Dry Irish Stout, c'est toujours des bières autour de 4 degrés, 3 degrés 5, pas plus. Les bitters anglaises, regular bitters ou special bitters ou extra special bitters, c'est des bières quand même très faibles en alcool.
Ouais, les Britanniques, ils aiment pas trop les bières, à part leur barley wine, mais sinon c'est quasiment que des bières assez faibles en alcool, justement parce que l'idée c'est de pouvoir en profiter, d'en prendre plusieurs fois, plusieurs verres, de passer un bon moment au pub. Alors que c'est vrai que si on voit certaines tendances chez les Belges avec des bières vachement plus fortes en alcool, plutôt autour des 9, les bières d'abbaye typiquement, des monastères qui étaient jusqu'à triple, quadruple maintenant qui sont à 10 degrés, on en boit moins, c'est sûr, on passe moins de temps au bar.
Après, c'est toujours ça, c'est que ça fait partie de l'héritage en Belgique, et tu vois, il y a plein de bières d'abbaye et avec des produits très forts, mais il faut pas oublier que la Belgique, la bière la plus consommée en Belgique, ça reste quand même la lager, qui à la base n'est pas un style belge, donc c'est un style allemand. Donc en fait, tu recherches toujours cette buvabilité, cette facilité à boire, cette légèreté en goût et cet équilibre. T'as besoin aussi des fois d'aller dans des choses un peu plus marquées en goût, mais tu te retrouves souvent revenir et boire ces bières qui sont quand même moins importantes en degré d'alcool. Après, il y a cet effet de mode avec la hype, et je me mets tout à fait dedans, dans cette catégorie, donc je critique pas du tout parce que je fais partie en fait de ces consommateurs qui recherchent en fait ces doubles, triples IPA, des fois quadruples IPA, hyper houblonnés avec beaucoup de corps et avec beaucoup de finesse aussi des fois, mais avec beaucoup d'alcool. Mais on se rend compte que ces bières-là, t'en bois 25 centilitres, c'est déjà suffisant. Mais quand tu veux boire une pinte, en général, tu reviens sur des styles un peu plus équilibrés, un peu moins importants en degré d'alcool.
Mais tu parlais de la hype, justement. Alors là, ça doit être ton mois préféré, surtout pour Athletic, parce qu'on est en mois de janvier. Donc, il y a la nouvelle hype depuis quelques... années, on va dire, en France, c'est le fameux janvier sec, c'est le dry January qui vient des pays anglo-saxons. Alors, comme je dis, ça doit être ton mois préféré.
C'est le plus gros mois. Ou pas, parce que c'est là où tu as le pic d'activité, donc c'est là où tu te fais... Mais effectivement, en tout cas, c'est très bon pour le business.
Voilà, c'est bon pour le business, c'est bon pour le corps aussi. Donc l'idée, c'est pendant un mois de faire attention après les fêtes, notamment, où on a peut-être un petit peu abusé, de se dire pendant un mois, eh bien, je réduis ma consommation d'alcool. Alors c'est soit pas d'alcool du tout, et ça c'était avant, mais maintenant c'est vrai que on voit qu'il y a tout plein d'alternatives autres que de juste prendre un soda par exemple bourré de sucre ou un jus. Et j'ai pu voir beaucoup de reportages, notamment pendant les fêtes là, sur des vins maintenant qui sont sans alcool. Donc c'est pas juste un jus de raisin pas alcoolisé, c'est carrément ils sont vinifiés et ensuite par le même procédé que pour la bière, on vient retirer l'alcool. Donc il y a une vraie tendance pour le mois de janvier de faire un petit peu attention à soi et de moins consommer tout en se faisant plaisir. Donc c'est pas d'avoir des bières qui ont du goût, voilà, un petit peu de diversité quoi. Ouais.
Je pense que c'est en fait c'est Dry January ou janvier sec peut être un peu le prétexte pour commencer à boire des bières sans alcool et pour aller un peu au-delà du stigme qu'il y a autour des bières sans alcool. Je pense que la chose la plus importante, c'est de si tu prends des bonnes habitudes et quand tu te rends compte en fait que c'est un bon produit avec un goût hyper satisfaisant, tu te rends compte en fait que c'est quelque chose que tu peux adopter tout au long de l'année. Si Dry January peut être le prétexte pour commencer à goûter, tant mieux. Moi, en tout cas, j'ai pas attendu Dry January pour un peu maîtriser ma consommation d'alcool. Je trouve, c'est gros passionné de bière, je bois énormément de styles différents. Ce qui aujourd'hui me gêne, en fait, c'est tout le côté l'alcool en fait que je consomme au quotidien, surtout quand t'as une passion qui tourne autour de la bière.
Et oui, on est obligé de faire attention un petit peu, on est au contact constamment de d'alcool quoi, effectivement.
T'es tout le temps en fait autour en fait de l'alcool et t'as besoin de moments de pause. Donc moi j'ai déclaré guerre aux gueules de bois. je me refuse d'avoir une gueule de bois, c'est hyper handicapant.
Dans la trentaine, c'est bien d'arriver à ce
moment-là. C'est pas quelque chose qui peut être comme on dit en anglais, sustainable pendant des années. C'est aussi une question de bien-être et aussi de... Je trouve que quand tu maîtrises mieux la consommation d'alcool, tu profites plus de ce que tu es en train de boire. Il y a plein de choses, une fois qu'on est un peu pompette, on boit des choses et on s'en souvient plus et c'est vraiment gâché parce que tu te fais du mal, toi, à ta santé et en plus, tu profites pas de ce que tu es en train de faire. Donc, pour moi, le but, je me suis rendu compte, le plus je consommais, le plus j'avais besoin de créer un équilibre et de maîtriser. Du lundi au jeudi, je bois pas d'alcool, mais en fait, je recherche ce plaisir que j'ai quand je bois de la bière. Mais je recherche pas l'alcool, je recherche en fait ce côté goût. Et en fait, ce que je cherchais avant, c'était d'avoir une bière qui soit aussi qualitative en goût que des bières avec de l'alcool. Et c'est ce que j'ai avec Athletic. Et du coup, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment tous les points positifs sans en avoir les contraintes. Alors, je dis pas que j'ai arrêté de boire des bières avec de l'alcool. C'est que les bières avec de l'alcool, elles ont tout à fait leur place. Mais peut-être avant, en apéritif, je bois une bière sans alcool. Et quand je sens que je suis un peu inébrié, je switch encore à nouveau sur les bières sans alcool. Pour calmer, mais aussi pour s'hydrater. Et aussi pour garder cette notion de plaisir et de goût et ce côté participatif avec les personnes qui sont autour de toi. Le stigme en fait qui est autour des bières sans alcool, ça vient en fait du stigme des bières un peu comme la Bachelor, des bières hyper sucrées qui n'étaient pas forcément hyper qualitatives en goût, et aussi le côté ennuyant des bières sans alcool, c'est que tu avais un seul goût et c'était la lager sans alcool. Et en fait, on a besoin de diversité. La bière craft a explosé grâce en fait à toute cette polyvalence de goût. Et on a besoin de cette polyvalence de goût dans le sans alcool aussi. C'est pour ça qu'Athletic a décidé de miser sur faire une brasserie qui produit que du sans alcool et avoir une polyvalence de goût qui est très importante. Parce que peut-être que tu veux boire une lager sans alcool un lundi, mais tu as envie d'une easy IPA sans alcool le mardi et une sour le mercredi. Et en fait, tu gardes cette variété et ce goût. Et des fois, moi, ça m'arrive, j'ai vraiment juste besoin d'avoir ce goût du houblon, le pelé du houblon. J'ai pas forcément besoin de boire une IPA avec de l'alcool. Et en fait, j'ouvre une Run Wild, qui est notre West Coast IPA. ou une Easy IPA, et je suis sans alcool, et je suis hyper satisfait. Et je dis, j'ai pas besoin de boire de bière boire des bières avec de l'alcool par la suite. Donc en fait, c'est vraiment ce côté équilibre, de maîtrise, d'alterner les moments de consommation. Et en fait, tu vois que ça a un côté hyper bénéfique sur ta santé. Et une fois que tu te rends compte que t'as le goût, que t'as un côté bénéfique et que tu vois vraiment les bienfaits immédiatement, bah du coup tu l'intègres un peu comme une habitude et tu l'adoptes toute l'année. Peut-être t'as commencé avec le Dry January et ensuite tu continues toute l'année parce que tu te rends compte en fait que c'est hyper cool en fait, c'est génial et tu veux continuer comme ça.
Et heureusement les brasseurs craft nous ont fourni pas mal de variétés aussi, ils sont tous mis quasiment et on peut trouver un peu chaussure à notre pied chez nos brasseurs préférés sans pour autant voilà aller sur la lager 00 un peu insipide, voilà.
Tout à fait. Il y a de la place pour tout le monde hein, dans la catégorie. Le plus on est, le mieux c'est. Ça permet de détruire un peu ce stigme de bière sans alcool, bière de contrainte. Tu la vois parce que t'as un problème. Non, tu la vois parce que tu prends soin de toi-même et parce que tu veux profiter du moment présent et parce que tu veux ajouter de l'équilibre et une notion de santé dans ta façon de faire. Et je reviens un peu sur le côté sans alcool aussi pour une question. C'est vrai qu'en France, peut-être, c'est moins important. Nous, on le met sur les canettes, c'est les calories. T'as 4 fois moins de calories sur nos bières que sur une bière classique.
On va forcément, il n'y a pas d'alcool, donc oui.
Et les sucres. En fait, dans une canette, t'as 4 grammes de sucre. Je rappelle, pour les gens qui ne savent pas, dans une canette de Coca-Cola, t'en as 36. 34, 36. Donc, on voit vraiment, même au niveau du repas, si on est à midi, on n'a pas envie de boire de l'alcool et t'es un restaurateur et t'as pas envie que les gens aillent demander une carafe d'eau parce que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, c'est quand même intéressant de proposer quelque chose déjà qui a beaucoup moins de sucre qu'un coca ou qu'un jus de fruits, qui a du goût, qui a une notion de céréales, de houblon, d'amertume, de complexité, qui s'accompagne certainement mieux que ta canette de soda à table, et ensuite qui a des vraies notions de goût au niveau bière. Donc le consommateur est content parce qu'il fait une expérience, le restaurateur est content parce qu'il augmente son chiffre d'affaires, et tout le monde est satisfait, et nous on est content parce qu'on a vendu des bières en plus. Donc vraiment tout le monde y gagne dans cette configuration. Sauf peut-être les producteurs de soda, mais j'ai envie de te dire, tant pis pour...
Ça va, ils ont pris de la place un petit peu. Bon, bah, merci beaucoup, Paolo, de nous avoir éclairé sur ce marché de bières sans alcool ou de bières low alcool aussi, hein, parce qu'il y a aussi les bières autour de 2 degrés qui ont leur place également. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques semaines pour justement faire découvrir à tous nos auditeurs tout plein de bières sans alcool pour tous ceux qui sont intéressés à justement découvrir, pas seulement en janvier, mais toute l'année, des bières qu'on peut déguster à tout moment pour justement diminuer notre consommation.
Super, bah j'ai hâte. Merci beaucoup.
Merci et à la prochaine.
C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Maintenant que nous vous avons expliqué comment se fait la bière sans alcool, on se retrouve dans un prochain épisode pour déguster de nombreux styles et toujours à moins de 0,5% d'alcool. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de partager cet épisode à un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous. À la prochaine !